du vent dans les pages.
Pourquoi j'écris ? Enfin, je dis quelquefois parce qu'on m'a dit d'écrire.
Nous vivons quand même un temps où la chose écrite compte de moins en moins, à cause probablement du brouhaha général.
Simplement, l'écriture sèche, nue, comme ça. Terrible.
Qu'est-ce à dire ? Si ce n'est que partout où la colonisation s'est manifestée, des peuples entiers ont été vidés de leur culture, vidés de toute culture.
Bah, finalement, il ne tient pas tellement la bouteille, cet écrivain américain.
Un anti-parlementaire.
Voilà, un muet, c'est un anti-parlementaire.
Un muet, c'est un anti-parlementaire.
Mais un athée.
Un athée, c'est un anti-moine.
Voilà, un croyant.
Aucun croyant, c'est un antiseptique.
Voilà. Et les Arabes du Caire
sont antisémites.
Et les sémites
sont anti-caire.
Voilà.
Je crois que ma vocation est nulle et qu'au fond, j'obéis aux autres, mais pas à moi-même.
Bonjour à vous, chères lectrices, auditeurs et vice-versa. Le numéro 6 du Vent dans les pages vous invite ce mois-ci à retrouver mes fidèles chroniqueurs, Alice et Alex, qui encore une fois ont travaillé dur pour chatouiller nos cerveaux curieux et zéphyriens. Nous en serons un peu plus sur Délire de lire, salon du livre jeunesse qui aura lieu au mois de mars en compagnie de mes invités Catherine Bonny et Corinne Renard. Et nous terminerons par une déclaration d'amour pour Istanbul, le tout saupoudré de notes musicales, alors ne quittez pas, vous êtes bien sur Studio Zef.
Page volante, aventures et mésaventures littéraires.
Par Alex Dozier.
Les livres ne manquent pas de caractère. Qu'est-ce que lire ? C'est, selon l'Académie, reconnaître en parcourant des yeux les signes graphiques qui transcrivent une langue, les sons auxquels ils correspondent ou les combinaisons qu'ils forment de manière à saisir leur sens. Donc, lire, c'est avant tout regarder. Depuis les débuts de l'imprimerie, les professionnels du livre recherchent les caractères qui favorisent la meilleure lecture et cette recherche se poursuit encore de nos jours avec les centaines de milliers de polices de caractères stockées sur nos ordinateurs. On peut tout écrire sous n'importe quelle forme, même avec des caractères spéciaux qui apparaissent sans cesse dans notre quotidien. Du moins, le croit-on. Ainsi, l'un des caractères les plus modernes qui soit, j'ai nommé l'arobase, est-il un signe que l'on retrouve dans l'écriture onciale au haut Moyen-Âge comme une ligature pour écrire le mot latin « ad » qui signifie « près de ». On le retrouve employé, mais avec un autre sens, très fréquemment en Espagne et en Italie, à la Renaissance. Le fameux hashtag aujourd'hui utilisé par Twitter signifiait au début de l'informatique « numéro », alors que son sens premier était bien entendu le dièse. Notons à ce propos qu'il n'existe pas de bémol sur nos claviers. D'ailleurs, tous ces caractères spéciaux, présents en contrebas des touches principales, portent un nom, ce sont des obèles. L'obèle primitif, inventé par Aristophane de Byzance à Alexandrie aux alentours du 3e siècle avant Jésus-Christ, correspond aujourd'hui à notre signe de la division. Un tiret encadré par deux points. Ce signe fut remplacé par des petites croix simples ou doubles représentant des dagues. C'est le caractère que nous utilisons afin de spécifier qu'une personne est décédée. À l'époque, il s'agissait de notifier certains passages douteux dans les poèmes, en particulier ceux d'Homère. Cet usage se perpétue aujourd'hui par l'utilisation des crochets encadrant une citation. Afin de commencer un dialogue, nous utilisons tous le tiret. Ce qui est une erreur, puisque ce signe entraîne normalement une énumération. Il faut donc employer le double quadratin, qui est un tiret moins épais, mais surtout beaucoup plus long. Regardez au cours de votre prochaine lecture un dialogue et vous serez surpris. L'on pourrait presque ainsi raconter l'histoire de chaque caractère et de son usage en typographie. Une petite anecdote littéraire pour vous souvenir de ce nom, Obel. Ne vous êtes-vous jamais posé la question de savoir pourquoi Astérix et Obélix portaient ces noms et non un patronyme construit sur un jeu de mots comme Abra Raccourcix ou AG Canonix ? Tout simplement parce que le grand-père de René Goscinny était imprimeur et que son petit-fils a tenu à lui rendre hommage. Notons que l'Astérix est un Nobel. Amoureux des livres, lecteurs invétérés, découvrez le monde de la typographie et vous apprendrez pourquoi on trouve parfois des coquilles dans un livre ou d'où vient l'expression « il n'y a pas de lézard ». Il n'y a en effet aucune raison de trouver ce petit saurien en train de faire la sieste entre deux pages. Cependant, les hasards de la composition et de la justification d'un texte amènent à laisser des espaces plus ou moins grands entre les mots. Ces espaces se reproduisent à chaque ligne. Ils pourraient, au fil d'un paragraphe, représenter un petit chemin sinueux ou serpentant qui gênerait la lecture. C'est ce qu'on appelle un lézard. un bon moyen de les découvrir est de prendre une page à l'envers du sens de lecture. Ils apparaissent plus facilement, nos yeux n'essayant pas de les lire.
Du vent dans les pages. Sur Studio Zef.
I've ever seen those concentrated, dilated pupils turn green when he looks upon me and my white guitar. Said the villain, you should drive off of a cliff in your car. When am I gonna find the time to breathe? Silly screeching sirens always searching for me. They wanna lock me up because I borrowed a car. And he gets my blood boiling like a bucket of
Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Studio Zef. Vous êtes à l'écoute du Vent dans les pages, où le plateau des invités de ce mois-ci est consacré à la littérature jeunesse, à l'occasion de la deuxième édition du Salon du Livre, Délire de lire. Celui-ci se déroulera à Saint-Gervais-la-Forêt, du 8 au 12 mars prochain, et aura pour thème « Les émotions nous livrent leurs couleurs ». Pour en parler plus précisément, j'ai à mes côtés Catherine Bonny et Corinne Renard, toutes deux faisant partie de l'équipe de l'organisation et de la genèse du projet. Bonjour mesdames.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, avant de vous laisser nous présenter le salon, j'aimerais d'abord vous lire quelques lignes d'une chercheuse qui s'appelle Isabelle Nière-Chevrel. Trouvez ça dans la revue d'histoire littéraire de la France et ça m'a inspiré quelques réflexions. Voilà, j'aimerais vous en faire part et qu'on en discute après. Alors, la littérature jeunesse est une des composantes de notre culture nationale et un des lieux où se dit, depuis le XVIIIe siècle, le sentiment de l'enfance. Elle construit un ensemble de références qui englobe la dernière tradition orale vivante, celle qui se transmet encore presque exclusivement de bouche à oreille. Berceuses et chansons, formulettes et comptines, jeux régulés par une phrase rituelle ou un texte chanté. Une part se transmet de l'adulte vers l'enfant au sein de la famille, une autre des aînés vers les plus jeunes dans les cours de récréation. Quant aux enfants, ils ne produisent pas de discours critiques sur les livres pour enfants, ils n'en ont ni le besoin, ni la culture, ni les outils. Ils ont une évaluation globale qui est celle de leur plaisir. Alors, je me disais, est-ce que les adultes qui animent, qui chantent, qui créent des salons, est-ce que c'est aussi un intérêt pour retrouver justement ce sentiment de l'enfance par rapport à l'imaginaire ? Et est-ce que ça vient, est-ce que le foisonnement de l'abondance, on peut dire, de la littérature jeunesse aujourd'hui, vient combler ce déficit peut-être de la tradition orale, de cette transmission, parce que dans notre culture occidentale, elle est quand même, est-ce qu'elle est en perte de vitesse? Est-ce que vous considérez que c'est en perte de vitesse, Catherine?
On est très silencieuse. C'est ça la tradition orale. Oui, parce que la question m'a troublée quand même, oui. Parce que je ne sais pas l'état de la tradition orale, sauf si on englobe, évidemment pour un enfant qui ne sait pas lire ou qui sait lire d'ailleurs, le fait qu'on lui lit à voix haute, qu'on lui raconte une histoire. Mais ce n'est pas la même chose. Je veux dire, la littérature enfantine, ce n'est pas le monde du conte. Ce sont deux mondes différents. Donc c'est pour ça que la question me troublait un peu.
Est-ce que la littérature jeunesse n'est pas l'héritage, justement, de cette tradition? On pourrait la poser comme ça.
L'héritage, je ne sais pas. Je mettrais en parallèle. Parce que je crois qu'il y a aussi l'étude de textes patrimoniaux que l'on raconte, que les enseignants doivent raconter aussi, et à côté, cette découverte de cette littérature, peut-être avec des auteurs plus foisonnants, comme on disait tout à l'heure, sur ce qui est l'humour, l'imaginaire, la fiction, hein, parce que là, ils ont vraiment une ouverture très prononcée. Mais justement, il faut aussi garder tout ce qui est contre patrimoniaux, il faut vraiment les garder. Donc je le mettrai en parallèle, oui. Mais pas quelque chose qui substitue à l'autre.
Surtout que je pense que la richesse de la littérature jeunesse, c'est ce mariage du texte et de l'image. Un conteur, il crée les images dans la tête et l'imagination des enfants. C'est une démarche différente. Là, dans un album, vous êtes... Alors, ça peut être la même personne, mais ça peut être aussi deux auteurs. Il y a vraiment une démarche de... Il faut voir. Enfin, écouter et voir. Donc, c'est un peu différent quand même pour moi.
Oui. Vous voyez, vous avez des choses à dire.
Et je crois, si je peux me permettre de rajouter, compter, c'est quelque chose de difficile. Et ce n'est pas quelque chose qui est inné. Compter, ça s'apprend. Lire, c'est beaucoup plus facile, mais compter une histoire, ça demande quand même aussi des compétences.
Alors, justement, donc, à propos d'apprentissage, Corinne, est-ce que vous pouvez vous présenter? Vous êtes conseillère pédagogique.
Oui, c'est ça. Je suis conseillère pédagogique à Blois depuis presque 10 ans. J'ai longtemps eu la charge d'un cours préparatoire, donc l'apprentissage de la lecture, une classe qui m'a effectivement passionnée pendant des années, et où effectivement dans ma classe, la littérature de jeunesse prenait toute sa place. La magie des histoires, de raconter des histoires aux élèves, mais la magie aussi de savoir que derrière le livre, il y avait un personnage, il y avait un auteur, il y avait un illustrateur, et justement d'apprendre et de faire sa connaissance.
Et vous avez attrapé le virus par votre métier?
Je crois que j'ai attrapé le virus effectivement par mon métier. Hein, je ne peux pas dire qu'enfant je l'ai dévoré, au moins à l'école primaire, après beaucoup plus, et maintenant je n'arrête pas. Mais je crois qu'effectivement j'ai eu ce coup de cœur pour la littérature de jeunesse, j'étais passionnée. Je crois que j'ai rencontré aussi des gens passionnants, et j'ai eu envie de transmettre. Et quand on apprend à lire à des élèves de 6 ans, je crois qu'on découvre à travers leurs yeux cette magie de « je sais lire ce mot-là ». Et puis, ça nous pousse aussi. Et quand on les voit comme ça, bon, on a envie de leur offrir encore de plus en plus d'ouvrages. Et puis, il faut dire quand même que l'édition est très riche, copieuse, foisonnante, intéressante. Elle est créative. Donc, on en a pour tous les goûts.
Vous nous avez parlé hors micro tout à l'heure du programme scolaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, comment ça s'organise?
Alors, c'est vrai que le programme qui vient de sortir, là, de 2016, les nouveaux programmes, mettent l'accent sur la littérature de jeunesse. Donc là, les enseignants sont tout à fait à l'aise, puisqu'on a des outils, on a des documents que l'on trouve sur Eduscol, où là, vraiment, tout est bien expliqué, à savoir que les élèves doivent se construire une culture littéraire, qu'ils doivent se familiariser avec des référents culturels et qu'ils doivent aussi développer une posture de lecteur. Donc à travers tous ces objectifs, les enseignants peuvent vraiment s'appuyer sur les programmes. Et on a les programmes ont aussi la qualité d'être très clairs, à savoir ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que du CP au CE2, on doit étudier 5 à 10 œuvres par année, ce qui est quand même pas mal. Au CM1, on précise 5 œuvres de littérature de jeunesse plus 2 œuvres classiques. Au CM2, 4 plus 3 œuvres classiques. Et en 6e, 3 plus 2. Alors, la liste n'est pas fournie comme cela en disant « Vous devez étudier tel et tel ouvrage », mais vous avez un petit catalogue aussi. Alors, il y a la littérature de jeunesse, et il y a des contes, il y a de la poésie et il y a des lectures de la littérature du patrimoine. Il y a des listes de références dans lesquelles les enseignants peuvent piocher, si je peux me permettre. Pour le cycle 3, ça a été remis à l'ordre du jour en 2007. J'ai envie de dire, on pourrait effectuer à nouveau un petit toilettage. En maternelle, en 2013, il y a eu une nouvelle sélection qui est parue.
D'accord. Et cette sélection est finalement décidée par qui? Comment
par
ça s'organise? D'accord.
Par le ministère. Et du coup, les enseignants reçoivent cette liste et peuvent justement voir. Ouais. Et on verra que certains auteurs invités sur le salon cette année, on retrouve des titres dans ces listes ministérielles. Donc, tout va bien.
Ça va, il y a de la cohérence.
Voilà, tout à fait.
Vous voilà rassurée. On va parler du salon, si vous voulez bien, moi que vous ayez.
Non, je vous en prie.
Hein, je disais tout à l'heure que toutes les deux, vous faites partie de l'équipe de l'organisation, mais j'aimerais bien, Catherine, si vous voulez bien, revenir sur l'historique, en fait, du projet. Voilà, comment ça a démarré
Alors, déjà, je rebondis sur ce que vous avez dit tout à l'heure, en parlant de développer le plaisir de la lecture. Et quand on a commencé à construire le salon, on s'était mis comme but de réaliser un salon convivial, à taille humaine, qui s'adressait au plus grand nombre, afin de sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge au plaisir de la lecture. Donc on est en plein dans notre sujet. Alors le salon, il est né juste après les élections municipales, puisque à Saint-Gervais, c'était une promesse du maire actuel, donc de la liste du maire actuel. Nous étions plus particulièrement deux conseillers municipaux très motivés sur ce projet, dont Pascal Nourisson, qui est... Il n'est pas là aujourd'hui, mais qui est vraiment plus qu'une cheville ouvrière, puisque en plus, il a aussi une casquette. Il a passé pas mal d'années dans l'éducation nationale et il connaît parfaitement donc le monde scolaire et aussi peut-être à travers toi, Corinne, la littérature jeunesse, parce que tu as dû l'influencer.
Un petit peu.
Voilà.
Je continue.
Donc, le projet a commencé à se monter comme ça, avec, je pense, aussi une certaine naïveté dans le sens, même si on était... tous les deux, enfin au moins pour nous deux, conseil municipal, mais pour le groupe, les quatre mousquetaires du début, des novices malgré tout dans le montage d'un salon municipal, ce que je souligne, mais c'est quand même un point qui n'était pas facile, parce que ça complique un peu l'organisation. Il est plus facile d'être en association que... Voilà, ça c'est un petit détail, mais ça compte aussi sur la solidité de nos nerfs, parfois. Voilà. Donc on a monté ce salon. Notre principe était simple. On ne voulait pas faire quelque chose de grandiose, on voulait faire quelque chose de professionnel. C'est-à-dire que dès la première année, dès l'année dernière, on a invité des auteurs tous de qualité, représentatifs de la littérature jeunesse. L'année dernière, on avait déjà 14 auteurs qui ont répondu présent, donc qui étaient là pendant plus de 3 jours, puisqu'il y avait une première partie, ce sont des ateliers dans les classes, un vrai travail donc, avec le monde scolaire, et puis après un salon grand public. On s'attendait à une réussite, on espérait 1000 personnes pendant ce week-end festif. On en a eu à peu près 2300. Donc ça a été à la fois un bonheur, un choc aussi, et aussi on s'est rendu compte que notre idée de salon correspondait à une attente du public. Ça a évidemment largement dépassé la petite commune, parce qu'on est quand même une petite commune de Saint-Gervais, et ça a touché Aglopolis et même au-delà. Et
oui, vous avez pu quantifier.
On pouvait déjà par rapport aux écoles, puisqu'on savait exactement d'où venait chaque enfant. Cette année, on essaiera de peaufiner, pour savoir d'où vient tout le public qui va fréquenter le salon. Donc cette année, quand on a relancé l'aventure, on s'est retrouvés, alors grâce à Corinne et Pascal, puisqu'ils ont fait tout le travail, tout le lien avec le monde scolaire, avec 110 classes inscrites, alors que l'année dernière, il y en avait 49. C'est-à-dire qu'on a plus que doublé le nombre des enfants et on touche des enfants sur le département de Romorantin à Vendôme, pour citer les grandes villes. Donc, on a déjà créé une véritable attente et une véritable envie.
Et pour reconduire donc ce salon à cette année, vous êtes confronté à un peu moins de difficultés que la première fois?
Moins de difficultés parce que on a vu nos défauts quand on a construit le premier, nos points de faiblesse. Donc on a avec Pascal, on travaillait un peu en solitaire sur Saint-Gervais. On a développé plus de travail en équipe avec des bénévoles et d'autres conseillers municipaux tout à fait motivés par le projet, en essayant de se partager mieux le travail. Donc là, je pense qu'on a fait des progrès sur ce point avec une collègue qui est en charge de l'organisation de la partie animation, une autre sur un parti de la gestion des bénévoles, car on ne peut pas tourner sans bénévoles. Oui. Voilà, on a quand même, je crois, beaucoup mieux organisé. Donc il y a un progrès, mais le salon prenant une telle ampleur, il y a d'autres problèmes qui se posent. Par exemple, le budget a quasiment doublé. Ouais. Il y a la tension de l'argent qui existe, malheureusement. Il n'y a pas que la culture, il y a aussi ce petit fil. Surtout qu'on s'est engagé à ce que la part communale n'augmente pas. Puisqu'en fin de compte, c'est l'expansion du salon qui fait sa taille.
Oui, voilà. Oui, oui. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de l'équipe nécessaire? Donc, vous avez des bénévoles. Il y a des salariés qui...
Non, je dis, il n'y a pas de salariés, puisqu'il n'y a pas d'association, il n'y a pas une équipe. En revanche, est sollicité le personnel de la ville de Saint-Gervais. C'est-à-dire que les services techniques, eh bien, on leur donne du travail en plus, hein, puisqu'il y a tout un travail de préparation pratique, etc. Le service administratif, la gestion du personnel, parce qu'il y a des feuilles de paie, enfin, il y a toute une organisation complémentaire, les finances, voilà, on gâte tout le monde. Donc là, il y a une part non négligeable d'heures de salariés, même si, c'est sur leur temps de travail, mais c'est une charge quand même supplémentaire.
Vous allez avoir combien de bénévoles là cette année? Vous savez à peu près?
On est à peu près autour d'une cinquantaine.
Oui, quand même.
Oui. Alors, je dirais qu'il y a deux types de bénévoles. Il y a les bénévoles qui travaillent pendant des mois avec nous, enfin, sur la construction. Et puis, il y a le paquet émis pendant les 3-4 jours du salon, enfin même un petit peu avant, parce qu'il y a tout le montage du salon, avec des accrochages d'exposition.
Ça, c'est vous qui le faites. Hein.
Ah oui, tout ça, c'est
vous
nous.
Vous faites vraiment tout de A à Z, les petites mains, voilà.
Voilà. Et puis, beaucoup pour la qualité de l'accueil. Oui. L'accueil, c'est vital. Oui. C'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal de pôles différents dans le salon. Beaucoup d'animations sont proposées. Il faut qu'une personne, une famille qui arrive, puisse tout de suite se retrouver. Donc, il faut qu'elle soit accueillie, il faut qu'on lui explique ce qu'il y a à voir, ce qu'elle peut découvrir, etc., etc. Donc, oui, on a besoin de bénévoles motivés, enthousiastes, et on en a quelques-uns.
Alors, j'aimerais qu'on discute un petit peu du thème. Alors, ce thème, les émotions livrent leurs couleurs. Donc, ça aussi, vous en avez décidé au cours d'une petite réunion bénévole. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous avez eu envie de traiter de ce sujet-là?
Alors, bon, moi, c'est vrai que je m'occupe beaucoup du contact avec les auteurs, avec ma collègue Pascale Josserand, qui est conseillère pédagogique en art plastique, qui est donc sur le département. On se rend aussi sur des salons, le week-end, par exemple. On a fait connaissance avec le salon de La Rochelle, il y a 2 ans. C'est un petit salon, c'était la 3e année. Donc, c'est un salon qui correspondait au nôtre, si je puis dire. Donc, on avait aussi besoin de conseils. Donc, on n'a pas été avare de demander, de poser des questions. Et nous avons été très bien reçus. Donc, c'est vrai que tous les ans, nous allons à La Rochelle sur le salon parce que ça correspondait aussi au nôtre. Alors, c'est vrai qu'on va aussi à Montreuil, on va sur des plus gros. Mais voilà, on a besoin aussi de se nourrir et de rencontrer. Parce qu'on connaît les œuvres, hein, on les lit, c'est vrai. Mais d'un autre côté, les auteurs, les illustrateurs, peut-être ça passe plus ou moins ou ça ne correspond pas au sujet que l'on a envie de traiter. L'année dernière, pour le premier salon, c'est vrai qu'avec Pascal Josserand, on avait pensé à voyage. Bon, on était partis, c'était facile. Je crois que pour choisir le thème, il ne faut pas non plus être trop restrictif. Il faut quand même un thème un petit peu large, dans lequel, parce qu'on puisse justement inviter nos auteurs, les titres des albums sur lesquels les enseignants vont pouvoir travailler. Voilà, donc le thème, on y réfléchit ensemble, on le propose. On avait envie de parler d'émotions. Je peux vous dire que les programmes de 2016 aussi sont en plein sur les émotions.
Les émotions au niveau ressenti
oui. aussi, hein, tout ce que l'on appelle l'éducation morale et civique. Mmh. On est vraiment, c'était le point fort, si vous voulez, de cette année. Et on a profité aussi, mais on ne voulait pas prendre l'émotion au sens propre, uniquement fermer les émotions. On ouvrait sur aussi le thème des couleurs.
Oui.
Donc voilà pourquoi ce lien.
Est-ce que la couleur en tant que telle, il y a une référence aussi justement à l'illustration dans la littérature jeunesse
Oui, on a des illustrateurs, franchement, où à travers leur travail d'illustration, on éprouve beaucoup, beaucoup d'émotions. Je travaille actuellement dans une classe de CE1 à l'école Bel Air sur une illustratrice, sur l'œuvre de Judith Gueffier. Et les élèves de CE1, de 7 ans, sont capables de vous parler des couleurs vives, des couleurs, des détails que l'illustratrice met dans ses œuvres. Et on sent qu'ils vont chercher un petit peu pourquoi l'auteur fait tout cela.
Les enfants sont extrêmement sensibles, peut-être plus sensibles que les adultes.
Il faut leur apprendre à lire l'image. Ouais, ouais. C'est pas évident. Mais justement, il faut s'arrêter à cela. Et les pousser un petit peu et aller rechercher un petit peu plus loin. Et puis, il y a toute cette magie que l'on crée autour d'eux quand ils sont petits, de dire, mais vous allez recevoir quelqu'un. Hein, et ce quelqu'un, qui sait. Moi, en tant que conseillère pédagogique, j'ai demandé aux collègues s'ils avaient besoin d'aide. Mais ça, Pascal Josserand est aussi invité par ses collègues s'ils ont besoin, au niveau des arts plastiques, cette fois un petit coup de main, etc. Je suis intervenue, par exemple, aussi à Raphaël Perrier. Si vous voulez, en tant que conseillère pédagogique, je suis amenée aussi à répondre aux questions des collègues s'ils ont besoin d'un petit coup de main, si je puis dire. Ben voilà, je voudrais étudier tel roman ou tel album, mais je ne sais pas trop comment l'exploiter. Est-ce que tu peux me donner des conseils, comment tu verrais cela? Parce que pour nous, il était hors de question que les enseignants s'inscrivent sur le salon si en amont, et recevoir un auteur si en amont ils n'ont pas travaillé les ouvrages. On ne va pas recevoir comme ça. D'abord, les auteurs le sentent très bien. Et dans un premier temps, notre travail aussi avec Pascal Josserand, c'est de faire une animation pédagogique dès le mois de septembre, où nous avons eu à peu près plus de 130 enseignants, où là, on leur présente tous les auteurs, tous les illustrateurs qui viendront au mois de mars. Et Pascal Josserand explique le projet art plastique qu'elle propose aux élèves. Elle donne aux enseignants, en donnant 2-3 pistes de travail. Voilà, les émotions, les couleurs, comment vous pouvez travailler sur ce thème-là. Et je vous assure qu'il y a des enseignants quand même qui la rappellent à l'heure actuelle, parce que le temps passe, le temps avance très très vite, et il y en a certains qui ont encore beaucoup de questions. Donc on est là aussi pour les aider.
Oui. À propos des exposants, les auteurs, illustrateurs, le choix a été, ça doit être difficile, non? Parce qu'il doit y avoir quand même beaucoup de monde que vous aimeriez inviter. La sélection se fait comment?
Vous parlez de la sélection au niveau des auteurs.
Des auteurs, oui.
Alors, c'est les contacts que l'on prend sur le salon, c'est une chose. Les auteurs que nous aussi, on connaît quand on a lu leurs ouvrages et qu'on a envie qu'ils viennent. Il faut quand même savoir que certains auteurs, il faut leur demander de venir, mais 2 ans avant, tellement leur planning est chargé. Le salon de mars 2017 n'est pas encore passé, que j'ai déjà pris des contacts pour 2018.
Oui.
Parce que je sais pertinemment que sinon je vais arriver trop tard.
Cette année, vous en avez 18
qui sont là pendant les 4 jours,
oui.
C'est-à-dire qui assurent les ateliers dans les classes. Donc cette année, vu la demande, on leur a demandé, enfin tous les auteurs invités, d'être présents 2 jours. Et pendant 2 jours, les jeudis et vendredis avant le salon, ils assurent donc des ateliers dans les classes du département.
D'accord.
Ça peut être des fois Vendôme, donc ça peut aller très loin. Voilà. Et ce sont ces mêmes auteurs qui seront présents au salon. Et c'est ça aussi la dynamique. C'est-à-dire qu'un enfant qui a travaillé pendant des mois, puisque dans certaines classes, il travaille pendant des mois sur l'auteur choisi, qu'il le rencontre, n'ont qu'une envie, c'est venir entraîner leurs parents.
Oui.
Pour leur faire partager leur expérience et ils viennent au salon à ce moment-là. Et en plus, cette année, on a je crois qu'on a, mieux organisé la partie animation atelier du salon, et on a demandé à un grand nombre des auteurs présents qui font les ateliers à refaire ou à faire d'autres ateliers, mais pendant le salon, que les enfants qui n'ont pas eu la chance d'avoir un auteur dans sa classe puissent quand même le rencontrer, l'entendre parler de son travail, partager, participer. L'idée, c'est vraiment que l'enfant découvre un peu toute cette chaîne du livre, en fait, cette découverte, puisqu'il y a, des auteurs, enfin, il y a même des éditeurs qui sont invités, qui vont parler de la naissance d'un livre. Enfin, il y a vraiment une démarche ludique et pédagogique, quand
même. Oui, bien sûr. Et il faut ajouter quand même que les auteurs, quand on les invite sur un salon, ce qu'ils désirent aussi, c'est d'être dans des classes avant. Parce que juste venir sur le samedi et le dimanche en dédicace, il n'y en a pas beaucoup qui sont vraiment intéressés. Ils sont beaucoup plus intéressés pour venir une journée, voire deux. Et c'est vrai que cette année, comme nous avons ouvert l'animation pédagogique à tout le département, et vu le nombre d'enseignants intéressés, j'ai été obligée de demander très vite aux auteurs s'ils étaient disponibles dès le jeudi.
Alors, j'ai eu une petite hésitation sur le nombre d'auteurs. Tout simplement, c'est que le noyau principal, ce sont ces 18 auteurs qui participent à l'aventure complète. Ah oui. Mais on a quelques auteurs qui ne viennent qu'au salon. Donc, qui auront cette difficulté de ne pas avoir travaillé en amont avec les enfants, mais qui, voilà, espèrent évidemment rencontrer leur public différemment pendant ces deux jours, enfin deux jours et demi.
Ouais,
voilà.
Ça va se passer où exactement à Saint-Gervais ?
Alors, il y a une différence. L'année dernière, c'était donc à l'espace de Ray, qui est la salle des fêtes, comme on disait autrefois. Ouais. Pour des raisons de travaux, etc., on n'a pas pu avoir cette salle. Donc, on s'est replié, si je puis dire, sur une salle qui a. Au début, nous emballait moins, puisque c'est une salle d'évolution classique. Hein, on appelait ça un gymnase, ça, autrefois. Mmh. Et en fin de compte, on n'y perd pas en place et on y gagne d'une certaine façon pour la qualité des ateliers. Puisqu'on va avoir donc, cette salle d'évolution où il y aura le salon, proprement dit, avec les expositions. Et puis, juste à côté, il y a le centre de loisirs, dans le même espace fermé, avec des pièces, des classes, donc, où les ateliers pourront être, se dérouler au calme. Mmh. Sans le brouhaha, oui, malgré tout, du salon. Ah, oui. On va même construire un barnum spécial pour présenter les œuvres des enfants, puisqu'ils créent pendant ces mois. Et on expose leurs originaux comme on expose les originaux des auteurs qu'on invite. Voilà.
Les originaux qu'on peut acheter, puisque le propre d'un salon du livre, c'est pouvoir acheter.
Non, on n'achète pas les originaux, les livres.
Et l'exposition repartira auprès de l'auteur.
Dédicacés quand même, hein,
les livres. Ah, les livres, hein, c'est ça le charme. Ouais, c'est ça, il y a de superbes dédicaces. Il faut dire que nos illustrateurs nous gâtent, ils font très belles dédicaces.
Côté pratique, toujours, est-ce que l'entrée est payante ?
Tout est gratuit.
Tout est gratuit.
L'entrée, les animations, les ateliers, tout est gratuit. Mmh. C'est un principe qu'on avait posé dès le début.
On peut se restaurer sur place ?
Alors, il y aura une petite restauration. Mmh. En fait, on a demandé une association, c'est l'association des parents d'élèves, d'organiser une petite restauration. Donc, eux aussi, ils auront leur barnum avec une petite restauration simple, mais aussi quelques petites douceurs pour les enfants, des boissons. On ne sait jamais en mars le temps qu'il fait. Peut-être que des boissons chaudes sont bienvenues.
Effectivement, on ne sait jamais. Voilà. Vous avez raison d'être prudente.
Alors, il n'y a pas que ça, puisqu'il y a également toute une programmation de spectacle aussi. Enfin, d'animation spectacle.
Oui, vous avez vu ça sur mon petit programme.
Ah, pardon ? Vous n'avez pas vu ça sur le petit...
Ah bah alors là, j'ai zappé. Là. Bah, expliquez-nous ça.
C'est pas le bon programme encore.
C'est-à-dire qu'il y a la présentation et on commence à... Alors, il y a un spectacle qui est programmé, mais là, il est pour les petits, hein, c'est-à-dire les tout-petits, halte, garderie, rame, qui est programmé le jeudi. Donc ça, c'est plus gervaisien, il faut dire, parce que les places sont limitées. Sinon, on a la compagnie Jean et Faustin qui vont faire des visites zigots thématiques. Et puis, nous avons aussi la femme Kamishibai. Donc, comme son nom l'indique, hein, des lectures avec les images du livre. Donc, à la fois statique, je crois qu'il y a même aussi du Kamishibai déambulatoire. Ça devient presque du sport.
Ah oui.
Voilà. Et puis, il y a des coins. Il y a un coin lecture et un coin histoire. Mm-hmm. Et donc, dans nos partenaires, pour le coin lecture, ce sera géré par la bibliothèque de Saint-Gervais. avec aussi des kamishibai, peut-être la concurrence, puisque ce sont des bénévoles qui font ça, ça va peut-être être dur pour eux. On a aussi, on invite un auteur qui ne vient pas faire des ateliers, qui s'appelle Charles Jeanne, qui a une toute petite maison d'édition, et qui lui a créé, enfin, compté. C'est un peu ce que vous disiez au début. Il adorait compter à ses petits-enfants. Il a créé sa maison d'édition et il édite ses contes. Alors, il va venir faire des contes et des moments de lecture pour les petits. Et puis, on a un autre coin, c'est le coin des histoires qui, lui, est animé par la Ligue de l'enseignement.
Très bien.
Donc, il y a pas mal de pôles différents.
Oui, tout à fait, oui. On ne va pas s'ennuyer là.
Je ne crois pas.
Puis, c'est pas un week-end, hein, c'est du mercredi au dimanche.
Pour le grand public, fin de journée, vendredi à 16h. Le dimanche, c'est 10h à 19h, donc c'est pas mal. Ouais. Et le samedi, le dimanche, 10h, 17h30.
Très bien.
On avait fermé à 17h l'année dernière et on a eu tellement mal à faire partir les gens qu'on a rajouté une demi-heure.
Sachant aussi que cette année, on fait une conférence pédagogique le mercredi après-midi auprès des enseignants du premier degré, des bibliothécaires, ceux qui sont intéressés.
Tous les professionnels intéressés.
Ouais. C'est Frédéric Manceau qui vient présenter son travail et qui nous guidera à travers une exposition de ce qu'il a, de ses œuvres.
Réalisé.
Voilà.
Et ça, c'est un très bon exemple. C'est grâce à un partenariat avec Aglopolis et plus particulièrement les bibliothèques d'Aglopolis, donc qui accueillent donc à l'auditorium cette conférence avec Frédéric Manceau et qui accueille également pendant 3 semaines l'exposition qui est une exposition de grande ampleur, ce qui fait qu'il y aura une partie de l'exposition à Genevois et une partie à la bibliothèque Abbé Grégoire, et qui après nous la prête pendant les 3 jours du salon pour qu'elle soit également visible à Saint-Gervais pendant le salon.
Tout ça se passe plutôt pas mal, finalement.
Plutôt pas mal. On a beaucoup de partenaires. Ciné Dimanche est partenaire, la Halle au Grain est partenaire, BD Boom est partenaire.
Le réseau marche bien.
Le réseau marche très bien. Et c'est comme ça qu'on réalise, je crois, bien quelque chose.
Très important.
Et quand on est passionné, ça va tout seul. Voilà, je crois.
Oui, ça s'entend.
On arrive à convaincre.
Oui, complètement.
C'est que du bonheur de travailler auprès des enseignants, auprès des enfants, des élèves. Donc, on ne compte pas ses heures. Et le temps que l'on y passe, bien au contraire.
Juste pour terminer, vous pouvez nous dire un petit mot sur le parrain de l'édition,
Gilles Bachelet.
Voilà. Alors, qui c'est Alors, pourquoi lui?
Pourquoi lui? Parce que ça fait des années et des années que j'aime beaucoup ce qu'il fait, son travail. Il est plein d'humour, plein de tendresse, d'un personnage très discret, que j'ai rencontré à Montreuil il y a l'année dernière, en décembre cette année. Et je lui avais dit comme ça, est-ce que vous faites des salons? Est-ce que vous devez être quand même bien débordé? Alors, il m'a dit oui, mais bon, pour mars 2018, si j'ai mon agenda, si je peux acheter mon agenda, je le fais. Puis, alors j'ai effectivement tout de suite contacté dès le janvier en lui disant, bon, s'il achète...
Mars 2017.
Voilà.
Ah oui.
Je lui dis, bon, il faut absolument que... Et sa réponse a été positive tout de suite, en disant, oui, je fais des salons. Bon, en plus, c'est pas très très loin. C'est vrai que quand on a des auteurs qui sont dans la région parisienne, c'est facile aussi pour nous rendre visite, quoi. Il y a ça aussi que l'on prend en compte. Et tout de suite, voilà, le contact est bien passé. On s'était dit que par rapport à notre thème, on le voyait bien faire l'affiche, que ce soit lui qui nous la propose. D'ailleurs, on n'a pas été déçus. J'ai une petite idée déjà pour l'année prochaine, mais top secret évidemment, on va rien dévoiler.
Ah non, on refera une émission.
Il y a des coups de cœur en fonction du thème. On se dit, tiens, on verrait bien cet auteur-là ou cet illustrateur-là. L'année dernière, c'était Bruno Pilorget qui n'était qu'illustrateur. Cette année, Gilles est à la fois auteur et illustrateur. Mais voilà, beaucoup d'humour et beaucoup de tendresse. Et je crois que c'est le message qu'on a envie de faire passer au niveau de ce personnage. Après, je voulais juste rajouter quand même que moi, je ne m'occupe pas du côté finance. C'est pas mon truc. Hein. Donc, je sais pas si vous
laissez ça
saisi,
à Catherine.
Mais, oui. Et à Pascal Nourisson.
Et à Pascal.
C'est
nous qui devons rendre des comptes.
Et c'est souvent quand je dis à Pascal Nourisson, ça y est, là, j'en ai un. Il m'a dit oui, j'en ai deux, j'en ai trois. Et puis quand on arrive à la quinzaine, il me dit, mais stop, Corinne, attends un petit peu. Là. Je dis oui, mais là, celui-ci, il est incontournable.
On peut pas dire non.
Frédéric Manceau, on l'a découvert un petit peu au dernier moment sur La Rochelle, mais je dis, on peut pas faire l'impasse. Là, il faut absolument qu'il vienne. Donc voilà.
Il falloir on gérer votre frustration.
Nous, on est les désagréables qui disent à Pascal Josserand et à Corinne, arrêtez, ça va nous coûter trop de sous.
Mais on sait être raisonnable. Quand même.
Ouais, ça va. J'ai l'impression que ça va. Ça n'a pas créé de gros conflits apparemment.
Pas du tout.
Nous sommes vraiment très fiers de nos auteurs invités et je veux dire, on ne peut pas être déçu. Quand on voit le programme et la proposition, la qualité, je ne vois pas quelqu'un qui viendrait au salon et qui ne trouverait pas une petite parcelle de bonheur à ce moment-là. Ce n'est pas possible.
C'est vrai que le retour aussi des auteurs illustrateurs de l'an dernier est quand même très utile. Parce que je pense que s'il y avait eu des choses à dire, une ou deux petites choses de négatives, ça a été dit. Mais d'un autre côté, ça a été vraiment
globalement. Très positif.
Et quand on les retrouve sur des salons comme à Montreuil cette année, ils se parlent entre eux et ils ont entendu parler du salon de Saint-Gervais.
Oui.
Et en positif, en disant qu'ils étaient, comme ils disent, coucounés, parce qu'ils ont aussi la chance. Ils arrivent à Blois, ils sont pris en charge par l'organisation. Et pour aller dans les classes, nous avons l'autorisation de notre directrice académique. Ça, c'est très, très important et c'est pour ça que je veux le souligner. Où elle donne effectivement son autorisation pour que les conseillers pédagogiques accompagnent les auteurs dans les classes. Comme ça, ensuite, on peut avoir, bon, il y a des photos, il y a des reportages, il y a tout un travail qui est fait avec les conseillers pédagogiques. Et merci à la directrice académique de nous offrir cette opportunité. C'est pas le cas partout. Et effectivement, c'est vraiment un très, très gros plus.
Tout à fait. Catherine, vous voulez rajouter
quelque
chose ?
Oui, alors il y a aussi, puisqu'elle dit que nous, on a, avec notre rôle de méchant, avec nos gros sous, on doit aussi, parce qu'on a des partenaires très actifs dans tous les domaines, et on a aussi des partenaires mécènes. Et sans eux aussi, on aurait quelques problèmes. Et je veux au moins en citer deux, c'est-à-dire nos libraires, les libraires de Blois, qui sont des partenaires depuis l'origine, qui ont été motivés dès le début, dès qu'on leur a parlé du projet, et se sont embarqués dans l'aventure sans savoir exactement ce qu'on allait faire, nous ont fait confiance. Et en plus de ça, ils sont mécènes. Donc, je crois que ce sont des partenaires à souligner. Puis, il y a aussi quelques autres mécènes, peut-être pas du monde de l'écrit et du livre comme de libraire, mais qui nous aident vraiment à réaliser ce projet. D'ailleurs, s'il y a des mécènes qui ne savent pas quoi faire de leurs sous, on est tout à fait ouverts.
Vous avez bien entendu.
Et c'est vrai que là, pour rebondir sur ce que dit Catherine, c'est que les libraires, bon, moi, on fixe effectivement les auteurs, les illustrateurs, il faut le faire avant le mois de juin. Je leur demande s'ils peuvent commander les ouvrages au plus tard fin juin. Ils me les confient. Bon, alors c'est donc la librairie Labbé et l'espace culturel Leclerc. Pendant les grandes vacances, je lis tous les ouvrages. Cette année, il y en avait presque 300. Pour ensuite, comme je vous disais tout à l'heure, de l'animation pédagogique, présenter aux collègues, il faut aussi que je leur présente tout, pas tout, mais une bonne partie des œuvres. Donc tout est vraiment, on a un calendrier finalement qui est quand même très serré, parce qu'on ne peut pas se permettre de retarder en septembre. Il y a des collègues qui commencent tout de suite. Et ils voient bien que le temps passe très vite. Donc, vous voyez, c'est un calendrier très serré. Et les libraires, franchement, adorables pour travailler avec nous et très, très ouverts, c'est aussi que du bonheur.
Je crois qu'on a vraiment toutes les informations nécessaires, principales. Si vous avez envie de rajouter quelque chose, il n'y a pas de souci. On va juste rappeler, donc, Délire de lire, Salon du Livre Jeunesse à Saint-Gervais-la-Forêt, du 8 au 12 mars. Voilà, entrée gratuite.
Voilà. Alors pour le grand public, du 10 au soir au 12.
Le week-end. Merci beaucoup, mesdames. Vraiment, c'était très intéressant.
C'était un plaisir de venir vous voir.
Voilà, vous revenez quand vous voulez, bien
merci
sûr.
Merci de nous avoir invités.
Voilà. Et puis, allez nombreuses et nombreux à ce Salon du Livre qui a besoin de votre soutien et de votre présence. À très bientôt.
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin, pas comme il faut. Ceux qui, avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur. Pour n'avoir pas su dire, délivrez-nous du pire et gardez le meilleur. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens. Ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui sans oriflamme et daltonien de l'âme ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui doutent mais voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps, et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps. Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs, et qu'on les remercie, qu'on leur dise en leur cri merci d'avoir vécu. Merci pour la tendresse, et tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont pu.
Du vent dans les pages sur Studio Zef.
Des essais contre les idées reçues. Alors que ce bon Donald Trump rend la planète entière bien nerveuse depuis son accession au pouvoir suprême le 20 janvier dernier, je me suis dit qu'il pourrait être intéressant de nous pencher sur le TAFTA. Parce que oui, même si Trump a fait de l'abandon des traités de libre-échange une priorité, ce projet d'accord transatlantique mérite quand même qu'on s'y attarde. Alors ça tombe bien, je suis tombée sur un tout petit livre écrit par deux économistes, Thomas Porcher et Frédéric Farah, qui s'appelle justement « TAFTA, l'accord du plus fort » et c'est publié aux éditions Max Milo. Alors, ce petit ouvrage fort instructif ne date pas d'hier, hein, puisqu'il est paru en 2014, et pour cause, ce TAFTA dont les commentaires nous accompagnent depuis de longs mois maintenant, est dans les tablettes depuis 2013. Et les médias s'en font régulièrement l'écho à l'occasion des différents cycles de négociations, dont le dernier s'est justement déroulé à New York en octobre 2016. Alors depuis le temps qu'on en entend parler, on connaît deux, trois choses de ce fameux TAFTA. Notamment qu'un des enjeux vise à abaisser les normes. Alors ça veut dire quoi, abaisser les normes? Ça veut dire réduire les exigences sociales ou environnementales quand elles enfreignent la libre concurrence. Par exemple, l'extraction du gaz de schiste est dangereuse pour les sols, mais permet de monnayer une nouvelle source d'énergie. Écoutez, autorisons-la pour le bien du commerce. Tel pays a interdit l'utilisation des OGM. Qu'importe, si c'est bon pour le commerce, c'est dans le TAFTA et on s'assoit sur ses contraintes. Alors forcément, les défenseurs du traité calment les esprits, expliquent que l'Europe est la gardienne des normes, que le TAFTA n'ira pas jusque-là. Sauf que, nous expliquent Thomas Porcher et Frédéric Farah, il pourrait bien y avoir un double discours. Car les mêmes défenseurs du traité promettent 2 millions d'emplois à la clé, grâce donc au TAFTA. Mais cette étude, qui soit dit en passant est qualifiée d'aberration, d'absurdité ou encore de fable par certains économistes, cette étude donc conditionne ces 2 millions d'emplois, notamment à l'abaissement de 25% des normes non tarifaires. Donc pas de risque, mais c'est quand même sur cet argument que se créeraient des emplois. Autre argument, le TAFTA permettrait de libéraliser l'énergie, donc de faire baisser les prix et de développer les énergies renouvelables. Alors là, comme il balaye d'un revers de main les études promettant des emplois, les deux auteurs démontrent, exemple à l'appui, que la libéralisation de l'énergie renforce les très grandes entreprises du secteur qui se retrouvent en position dominante sans menace concurrentielle, donc sans baisse des prix. Quant à la transition énergétique, il nous explique que même la crise du pétrole n'y a pas mené, donc sans volonté politique, elle ne craint pas de voir le jour, surtout pas de la part d'acteurs plus soucieux de faire du beurre que de sauver la planète. Reste enfin la question des tribunaux arbitraux, qui permettrait aux entreprises d'intenter des procès aux États pour avoir bloqué la libre concurrence. Ben, on apprend dans ce petit livre que Philip Morris a ainsi intenté un procès à l'Uruguay et à l'Australie pour avoir conduit des campagnes anti-tabac. Enfin, dernier argument, grâce à la baisse des barrières tarifaires, les prix des produits échangés entre les USA et l'Europe diminueraient fortement. Mais là, pas de chance. Encore un argument qui fait faire grise mine à nos deux économistes. Les voilà qui nous expliquent que la politique d'austérité européenne et le refus d'évaluer l'euro minent non seulement l'Europe de l'intérieur en privilégiant les pays forts contre les pays faibles, mais surtout, dans le cas présent, déséquilibre la balance en faveur des États-Unis. Avec un dollar plus faible, les produits américains coûtent moins cher que les produits européens, donc les États-Unis sortiraient gagnants d'un tel traité. Donc, quand le TAFTA est présenté comme un traité profitable aux consommateurs et aux chômeurs, TAFTA, l'accord du plus fort, nous démontre plutôt que les réels bénéficiaires du traité, sans surprise, seront les multinationales, qui plus est plutôt les américaines. Et alors, me direz-vous, à quoi bon s'inquiéter du TAFTA, puisque Trump a décidé d'enterrer tous les traités de libre-échange multilatéraux ? Certes, vous répondrai-je. Mais voilà trois arguments pour lire TAFTA, l'accord du plus fort. 1. Nous ne sommes pas à l'abri d'un revirement de Trump. 2. Ce n'est jamais inintéressant de comprendre ce qui se cache derrière les traités de libre-échange et dans les bureaux de Bruxelles. 3. Le CETA, l'accord de libre-échange avec le Canada, qui lui est en cours de ratification, contient les mêmes clauses que le TAFTA. À bon entendeur.
Of a big disease with a little name. By chance his girlfriend came across a needle and soon she did the same. At home there are 17-year-old boys and their idea of fun is being in a gang called the Disciples, high on crack, toting a machine gun. Off a church and killed everyone inside. You turn on the telly and every other story is telling you somebody died. Sister killed a baby because she couldn't afford to feed it, and we're sending people to the moon. In September my cousin tried a reefer for the very first time. Now he's doing a horse. It's June. Is it silly? No. When a rocket ship explodes and everybody still wants to fly. Hey, some say a man ain't happy truly unless a man truly dies. Oh, why? Mess with your mind. Mess with your mind. A speech, Star Wars fly, neighbors just shine it on. But if a night falls and a bomb falls, will anybody see the dawn? Time, mess with your mind.
Métis, la poésie voyageuse. Hamide vient de Gaziantep, ville de Turquie proche de la frontière syrienne. Elle est professeure de turc en France pour une durée de 5 ans dans le cadre du programme d'enseignement de langue et de culture d'origine, directive européenne en coopération avec 9 États. La langue turque, ou plus exactement les langues turques, couvre une surface très importante depuis l'Europe jusqu'aux confins de la Sibérie. Pour n'en citer que quelques-unes, il y a le turc de Turquie, l'azéri d'Azerbaïdjan et d'Iran, le turkmène, l'ouzbek et le kirghiz en Asie centrale. Enfin, le turc s'écrit en alphabet latin, mais les voyelles sont celles de l'allemand. On retrouve certains mots turcs passés au français, comme yogourt, pacha ou tulipe. Le poète et musicien turc d'aujourd'hui, Asik Veysel, naît en 1894 et meurt en 1973. Il devint célèbre alors que naissait la République turque à laquelle son destin fut profondément lié. Hamideh aime la littérature et l'histoire de son pays qu'elle connaît bien. Écoutons-la nous lire un des textes du poète aveugle, amoureux d'Istanbul.
Sevgisi içimde yaşayıp duran nazlı güzellerin şirin İstanbul. Hayali kafamda hükümler süren görmez gözlerime görün İstanbul. Ortasında deniz, kenarlar kara, bu dünyada cennet olmuş kullara. Mehtapta sandallar ne hoş manzara, sahildir, yayladır yerin İstanbul. Gemilerin gelir peşi peşine, şöhretin yayılmış hudut dışına. Ayrı bir güzellik başlı başına, sevgi muhabbetin derin İstanbul. Fatih Mehmet Sultan temeli kurdu, ondan sonra oldu Türklerin yurdu. Edirne'den gelen o büyük ordu, ay yıldız bayraktır nurun İstanbul. Denizler kilidi boğazların var, dünyaya haykıran avazların var. Yılmaz Türk ordusu şahbazların var, ferah tut gönlünü serin İstanbul. Dünya güzelliği sendedir mevcut, hususi özenmiş, yaratmış mabut. Herkesin gönlünde vardır bir maksut, halis Türk maksadın varın İstanbul. Edipler, şairler yetişmiş sende, ehli aşıklar yanmış tutuşmuş sende. Bir aciz kimseyim, Veysel'im ben de, seversen olayım yarın İstanbul.
Du vent dans les pages se termine avec mon chouchou rock Rory Gallagher qui n'a pas eu le temps de jouer à Istanbul. Un grand merci à Hamideh, Corinne, Catherine, Alice, Alex et au joyeux barbu de Studio Zef. A bientôt à la radio. The thing that you are coming back, and I can't wait to see you materialize. How much can I take now before I break inside? How long will it take now before I realize that I can live without you by my side, and nothing else will keep me in my eyes.
mistake now ain't gonna make it twice. But time can put the bad